I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La toile.
Avant de commencer, il faut toujours mettre le téléphone en mode silence.
C'est un peu fort le son, Richard, dans nos oreilles. Je crache mes glaires.
Ouais, juste pour éviter d'être outside of the angle.
J'ai un truc dans l'est, c'est grave. Tu peux faire des petites stories de nous, comme si on fait genre on parle.
On met pas les mains sur la table.
Mais t'es sûr que vous voulez pas un miroir, non?
Quelle est l'app, s'il te plaît, focus.
On est prêt.
3, 2, 1, action.
Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hugues Morel d'Arleux. Alors, le métier de Hugues, c'est quoi? C'est prêtre. Mais attention, Hugues n'est pas un prêtre comme les autres, pas du tout. Non pas que je connaisse beaucoup de prêtres, hein, puisque concrètement c'est le seul de mon entourage que je connaisse, mais Hugues est l'illustration parfaite du prêtre moderne. Du prêtre comme on ne pense pas qu'il puisse en exister. Alors je dis ça, mais ils sont d'ailleurs peut-être tous comme Hugues, les prêtres d'aujourd'hui, c'est-à-dire ouverts, très ouverts, j'en sais rien peut-être. En tous les cas, Hugues est un homme génial, passionnant, drôle, attachant. Et surtout, il en connaît plus que quiconque sur la vie, sur les gens et sur l'amour de l'autre. Hugues, bonjour.
Bonjour Pénélope.
Comment vas-tu?
Ça fait plaisir de te voir, ça fait plaisir d'être là.
Est-ce que tu veux bien que je t'appelle Hugues ou je vais t'appeler mon père?
Mon père.
Non, c'est pas ça, on dit pas mon père?
Si, on dit mon père, mais appelle-moi mon père pendant une heure.
C'est chaud. Tu veux, mais je peux, ça peut être un
truc. Allez, vas-y, Hugues.
Donc, mon père. Non, ça me gêne, ça m'est pas naturel. Vas-y. Hugues. Normalement, on commence toujours par... Mais tu connais bien parce que tu écoutes évidemment tous les épisodes de On tisse la toile. Donc tu sais qu'on commence par cette première question du jeu du tu préfères. Bien sûr que tu le sais.
Certainement, je dois le savoir.
Voilà. Sauf que là, avec toi, on va faire une exception.
Génial. Dieu
me donne la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur ce que tu penses qu'il guide mes pas. Dieu me donne la foi.
C'est vrai.
Puis je ne sais quoi.
On adore, non, Ophélie Winter?
Ah ouais, j'ai bien dansé là-dessus.
C'est vrai?
Ah ouais, super.
Quand t'avais déjà été appelé?
Ah bah oui, et même avant. Ah ouais, c'était super.
Hugues, avant de s'emballer dans cette conversation, veux-tu faire attention à tes mains?
Qu'est-ce qu'elles ont?
Elles sont sur la table qui est creuse, et du coup ça fait du bruit, tu vois, c'est les aléas de ce studio magnifique. Donc il faut que tu les mettes voilà, sur ton torse, sur ta tête, où tu veux, sur ta bite...
On continue l'émission
hein? Oh, on coupera. Hugues, on va commencer par mon jeu préféré, qui est le jeu du tu préfères.
Allons-y, c'est une découverte pour moi.
C'est vrai?
Ouais.
Tu préfères ne plus jamais pouvoir te connecter à Dieu ou ne plus jamais pouvoir te connecter aux autres?
Ah bah en fait, je peux choisir les deux puisque c'est synonyme.
Comment ça c'est pareil?
Parce que quand je me connecte à Dieu, lui il me ramène vers les autres, et quand je me connecte vers les autres, je rencontre Dieu.
Mais si t'as plus Dieu, il y a quand même d'autres gens sur cette terre.
Ah bah oui, c'est
du coup,
sûr.
Tu seras quand même toujours connecté aux autres.
Ok.
C'est que ces deux réponses...
Donc,
c'est
que je réponde quand même.
Bah oui.
Ah, bon. Eh ben, je préfère me connecter aux autres parce que Dieu, je le connais moins que je connais les autres.
Ah bon?
Bah oui.
Tu le connais moins?
Bah parce que je l'ai jamais rencontré encore face à face.
Et est-ce que tu vas le rencontrer un jour?
Ah bah j'espère. Je le verrai à la fin.
D'accord.
Et lui, il m'a dit que je peux même le rencontrer déjà maintenant.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, à chaque fois que je vois quelqu'un qui est petit, fragile, triste, malade, en prison, et que...
C'est Dieu.
Eh ben, il me dit que c'est lui. Même s'il a les traits d'une petite vieille amochée, c'est Dieu. Ben, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit en Matthieu 25. Tu verras la suite, c'est la fin du chapitre 25.
Il m'a dit que c'est « j'ai lu dans » ou « il t'a vraiment dit »
Ben, « j'ai lu dans », c'est dans Matthieu 25. Là.
D'accord.
Et puis on me l'a dit aussi, à la messe, quand c'est prononcé, ça arrive par les oreilles.
Mais la messe, c'est un prêtre qui le dit.
Oui.
Et donc tous les prêtres font office de parole de Dieu.
À la messe, quand on lit la Bible, quel que soit le lecteur, c'est la parole de Dieu qui jaillit. Même si c'est quelqu'un qui n'y croit pas et qui vient et qui proclame la parole, c'est Dieu qui nous parle.
Quelqu'un qui lit mal la Bible à la messe, c'est quand même une...
Bah ouais, c'est embêtant.
Bah ouais.
Bah c'est toujours mieux que le lecteur, il ait préparé sa lecture.
Oui.
Qu'il ait repéré...
Parce qu'il est peu crédible, Dieu, là.
Mais peut-être que Dieu, il bègue ou il balbutie. Ou...
Ah d'accord, on peut penser que Dieu est bègue.
En tout cas, quand il a parlé par Moïse, Moïse était bègue d'après les Écritures, on peut comprendre cela. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'emmener tout le peuple faire sortir d'Égypte. Donc Dieu leur parlait par la bouche de Moïse et il était bègue. Donc c'est super, il trouve plein de moyens pour s'adresser à nous.
Quel autre moyen ?
Est-ce que le silence est une parole ?
Je ne comprends pas la phrase, vous avez 3 heures. Mais quand tu dis que c'est Dieu qui te parle, je pose des questions un peu basiques parce,
ouais,
que, ouais, mais parce que c'est important.
Ouais, ouais.
Quand tu dis que c'est Dieu qui te parle, est-ce que c'est toi qui te dis que c'est Dieu qui parle ? Ou est-ce qu'il y a un truc où tu es connecté avec ton cordon ombilical virtuel à lui ? Un peu comme dans le 5e élément, tu sais, ils ont des trucs... T'as un truc spirituel qui te lie à Dieu, qui fait qu'en plein silence, tu te dis là, oui, il me parle, je l'entends, entre guillemets.
Moi, j'ai du mal à le percevoir à l'instant. Mais après coup, je me dis, peut-être qu'il était là. Tu vois, quand il y a une paix, quand on a redonné sa chance à la vie, quand il y a eu un amour vrai, quand... peut-être qu'il y a l'œuvre de Dieu qui est passée là.
Mais quand il y a la guerre, des gens de côté et des souffrances, on se dit aussi que potentiellement il est là, mais qu'il peut rien faire.
En fait, il est plutôt là du côté de celui qui souffre. On aimerait bien qu'il se bouge plus, mais je ne sais pas trop comment.
Tu ne peux pas lui parler ?
Alors, on lui demande, hein, et les hommes, ils crient. Il y en a qui crient plus que moi, parce qu'ils sont vraiment dans la merde. Et...
il ne se passe pas grand-chose.
Mais on ne sait pas ce qui se passe. Mm. On comprendra peut-être à la fin, ça sera peut-être un peu tard. Mais...
et alors, Hugues, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ce moment ? Moi, je le sais, mais j'ai envie que tous nos auditeurs le sachent et que tu le racontes mieux que moi. Comment s'est passé ce moment de « je suis un petit garçon » à « qui joue à l'école et qui sort avec des filles » à « je suis un adolescent et qui, en fait, veut se dédier à Dieu ».
Eh ben, t'écoutes Pique Parole, le numéro 13.
Pique Parole !
Le 13, numéro 13, et voilà, le prêtre. Et c'était il y a bientôt 5 ans.
Waouh, mais non.
Mais si.
Ça veut dire qu'on s'était pas vu depuis 5 ans, là, quand c'est qu'on a
ben,
vu ?
Voilà.
T'as pas changé depuis 5 ans ?
Oh, j'ai rajeuni, non ?
Mais oui, oui, complètement. Oui, oui. Moi aussi, non ?
Oh, ah t'as pas perdu ton humour.
Pardon, j'ai pas le...
t'as pas perdu
je
ton
blasphémé,
humour.
Là, je blasphémé. Est-ce que si je t'insulte, c'est comme si j'insultais Dieu, du coup, quelque part.
Non.
Bah si.
Bah non.
Bah citer les paroles de Dieu.
Bon, ok, on n'est pas à la messe là.
Ça va. Ah, c'est que la messe que ça marche.
Ouais, quand même.
Ouais, mais heureusement, parce que sinon, t'imagines, tu ferais la loi partout.
Alors, il faut que je raconte mon histoire ou alors
bah oui.
Vous allez voir Pique Parole.
Non, mais ils vont pas
13.
Écouter Pique Parole. Pour l'instant, c'est dommage parce que Pique Parole, le podcast Pique Parole, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, by the way, est mon podcast, ouais. Un de mes podcasts, mais génial, on est d'accord.
Bah, c'est super.
Il y a ton
et
histoire.
Tout l'ensemble de Pique Parole, c'est super. Voilà, alors donc, je fais la version courte. Je foirais mes études. Ça marchait pas avec les filles. Il fallait bien faire quelque chose. Je suis devenu prêtre.
Ah ouais, c'est ça, en substance?
Ben là, c'est plus simple, non, c'est plus rapide que raconter toute l'histoire.
Oui, oui, c'est plus rapide. Non, mais il n'y a jamais bien l'histoire de quand t'étais un petit garçon et que t'étais à l'église.
Ah oui, on était 4 sur le banc.
Oui.
Et le prêtre a dit, c'est peut-être pas ça qu'il a dit, mais c'est ça que nous avions compris. Sur 4 jeunes, il y en a un qui est appelé. Et on était 4, on a compté 1, 2, 3, 4. Et au fond de moi-même, je me suis dit, eh, pourquoi pas? Puis voilà. C'était un pourquoi pas. C'était pas, non,
c'est
pas du tout. Ou alors, ah, super, j'y vais. Non, c'était pourquoi pas.
Et comment est-ce qu'on passe du pourquoi pas à en effet ?
Quand j'avais 17 ans, je me suis dit, tout ça c'est de la salade ou c'est vrai ? Est-ce que Jésus c'est comme la petite souris et le Père Noël ou il a vraiment existé ce gars-là et puis surtout son message, il vaut vraiment le coup d'y consacrer du temps ? Et là j'ai fait le choix d'y croire à 17 ans. Voilà. Et à 23 ans, je suis rentré au séminaire pour devenir prêtre.
T'imagines si il y avait autant de personnes qu'il y a de prêtres qui se disent la même chose avec le Père Noël ?
Ce serait génial, ce serait Noël toute l'année.
Ce serait ouf.
Ah ouais, c'est génial.
Donc t'es rentré au séminaire à 23 ans.
Oui, en gros, oui.
Et là, t'as combien de temps de séminaire ? Ça dure combien de temps ?
Ça dure, à l'époque, ça durait 6 ans. Voilà, maintenant, c'est 7 ans.
Et donc à 30 ans, t'es sorti du séminaire ?
Oui, à peu près.
Et alors, qu'est-ce qui se passe au séminaire concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, on apprend à devenir prêtre. Et d'abord, on discerne, on se dit, est-ce que ce gars-là, et lui-même se dit, est-ce que ben, je vais être heureux ? Ça, c'est la question fondamentale qui se pose.
Donc, et il y a des cours pour ça ? Il y a des accompagnements ?
Alors on est chacun accompagné toutes les semaines au départ, puis après tous les 15 jours par un père qui nous suit et qui lui est tenu au secret, à la confidence. Et donc quand on parle de nous ou à table ou ailleurs, il dit rien.
Ok, et donc ensuite ?
Alors il y a des cours, évidemment on a des cours bibliques toutes les... voilà, on a des cours d'histoire, de l'église, il y a de quoi faire, il y a quand même 2000 ans d'histoire. Il y a la découverte des autres traditions religieuses, on a des cours d'éthique en tout genre. Et puis on apprend aussi à parler en public. Et puis le week-end, on est dans les paroisses avec des curés. Et on vit avec eux au quotidien. Et puis on s'ennuie parfois parce qu'il n'y a rien à faire.
Mais c'est sympa. C'est un moment sympa, c'est genre un peu une pension.
C'est une fraternité. Le séminaire, oui, c'est comme une pension. Mais justement, avec l'ambiance internat. Plus il y a de contraintes, plus moi ça m'amusait parce que c'est sympa de la transgresser, la contrainte.
Ah oui, comment tu transgressais? Tu faisais des fugues et tout?
Des bacs de potage. Mais non, parce que ce qui est embêtant, c'est que le séminaire, c'est un lieu où on t'apprend la liberté. Donc le premier truc qu'on te donne en rentrant, c'est la clé.
La merde.
Mais t'as pas envie. Donc voilà, pour t'apprendre à vivre la liberté, tu files la clé dès le départ. Et donc tu rentres, tu sors, on te dit voilà les règles, c'est bien après 22h, pas faire trop de bruit, quoi. Parce qu'il y a les autres qui dorment et le matin, pas trop de bruit avant 7h. Voilà. Et donc, vivre avec la liberté, comment tu fais? Choisir tes contraintes. C'est un peu ça d'être libre.
C'est choisir ses contraintes.
C'est pas mal, non?
Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ça. Est-ce qu'il y a des hommes, je parle d'hommes parce qu'il n'y a pas de femmes prêtres, on y viendra. Est-ce qu'il y a des hommes qui rentrent au séminaire sans réfléchir à ce qu'est concrètement le métier de prêtre, en se disant juste j'ai la vocation, la foi, j'ai envie de me dédier à ça, mais en fait je me rends pas compte que concrètement je vais devoir prendre la parole à la messe tous les dimanches. Et en fait j'ai pas du tout envie de prendre la parole, moi je suis plutôt un timide qui n'ai pas envie de parler.
Eh ben on va l'aider à discerner s'il est fait pour être prêtre, peut-être pas pour que le dimanche il fasse des homélies, des sermons.
Ah, on peut être prêtre sans faire ça?
C'est quand même compliqué quand même.
Oui, parce c'est
que
ça.
Le prêtre c'est quand même le gars de la messe quoi. Donc oui, il doit essayer de dire un mot, mais il y a des gens qui sont très paralysés par une assemblée.
Et donc?
Eh ben si vraiment c'est complètement paralysant, il faut qu'il aille faire autre chose.
Mais attends, il va pas se bloquer sa vocation juste parce qu'il peut pas parler devant des gens.
C'est qu'il a peut-être d'autres difficultés ce gars-là, peut-être.
D'accord.
Pas. Ou alors il trouve une autre forme, par exemple, il peut devenir frère dans un monastère, il se retrouve avec d'autres gars, il prie, voilà, il est obligé de prendre la parole.
Et alors le monastère, vas-y, raconte.
Le monastère, c'est des célibataires qui vivent ensemble. Et puis qui se donne une règle de vie.
Donc homme, prie,
homme ou femme.
D'accord.
Et puis il y a des endroits plus contemporains où il y a homme et femme, il y a même des gens mariés. Et...
D'accord.
Alors évidemment, on essaie de respecter un peu l'intimité de
chacun. C'est pas une orgie dans le monastère, quoi. D'accord.
C'est toi qui dis.
Il y a donc potentiellement des orgies dans le monastère.
Non, je pense pas. Mais bon.
Oui, oui, d'accord. Mais ça, mais donc c'est des moines.
Voilà.
D'accord. Comment est-ce qu'on devient moine?
Et bien pareil, on frappe à la porte d'un monastère, on dit c'est sympa la vie chez vous, est-ce que je peux rester?
Sans avoir fait 6 ans d'études.
Sans avoir fait 6 ans d'études. Mais
genre là, moi demain je peux y aller.
Oui, tu peux être accueilli plutôt chez les femmes.
Oui.
Ils vont te dire d'abord bienvenue, t'as une chambre, tiens, tu veux manger, c'est là, l'église c'est là. Et puis progressivement, on va t'écouter, et ben voilà, et c'est quelles sont tes motivations pour que tu viens. Et puis à un moment, voilà, on va te poser des questions un peu plus fondamentales, est-ce que tu veux te former, est-ce que tu respectes... De toute façon, pour eux, les moines, un des principes de vie, c'est le respect de la règle.
Intéressant.
Ça ira, Pénélope, respecter la règle?
Pas trop. Déjà, c'est pas... Il n'y a pas autre chose vers laquelle je pourrais aller?
Je sais pas, religieuse, tu vois, enfermée, vivre la règle, non.
Ça, non. Mais il n'y a que ça? Mais non, ouais, prêtre, surtout, mais bon, je suis une femme, donc je peux pas, mais c'est déjà un peu plus cool que moine.
Ah je pense qu'il y a des moines qui sont cool.
Mais... Oui, mais il faut quand même qu'ils respectent
la règle. Et puis, il y a des filles qui sont dans le monde... qui sont ingénieurs, je sais pas quoi.
Ah oui, d'accord, mais qui sont moines en parallèle.
Et qui sont, alors oui, on dit religieuses, mais elles s'habillent en civil.
D'accord.
Et le soir, elles se retrouvent avec d'autres nanas. Elles ont une règle de vie, bien sûr, hein, parce que bon, c'est pas chacun bouffe quand il veut, mais on essaie d'avoir une vie commune.
Et alors, justement, Hugues Morel d'Orleux, mon père, il n'y a pas, à ma connaissance, de femmes prêtres.
Dans l'Église catholique, oui.
Dans l'Église catholique.
Même orthodoxe aussi.
Même orthodoxe. Comment l'explique-t-on? En fait, à part prêtre, quel métier une femme n'a pas le droit de faire aujourd'hui? Je réfléchis en même temps.
Mais je ne sais rien.
Mais moi non plus, réfléchissons. Y a-t-il un métier pas autorisé aux femmes?
On pose ça ce soir, on pense que c'est celui-là.
Ok.
Ok.
C'est un peu lunaire.
Ah oui. Ben, on va essayer d'y répondre ensemble.
Essayons.
Alors, Jésus est un homme. Donc, ceux qui représentent Jésus, on dit en latin « in persona Christi », qui représente le Christ. Par exemple, dans la messe, quand il dit « prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang », on pourrait se dire « il faut que ça soit un homme ». Moi, je ne tiens pas trop cet argument-là, parce qu'à notre baptême, je ne sais pas, tu es baptisé ?
Oui.
Bon, à ton baptême, tu es configuré au Christ. Tu deviens Jésus. Et le mot chrétien, c'est vraiment ça. Chrétien, chrétienne, c'est tu es configuré au Christ.
D'accord.
Et donc de dire que pour être prêtre, c'est pas possible si t'es une femme. Pas.
Parce qu'au baptême.
Au baptême, tu l'es quand même. Et puis t'appartiens, même on dit dans la tradition baptismale, on dit que t'appartiens maintenant à un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Prêtres, prophètes et rois. Donc tu vois, t'es prêtresse, prophétesse et reine. Reine Pénouche. Ah oui, reine c'était Pénouche. Une reine d'ailleurs. Reine Pénélope.
Ah
Ulysse,
bon
il était paroi?
Non, pas du tout.
Ah non, pas du tout. Non. Non, 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 il filait la haine.
Bon,
ok. Alors, donc,
un Jésus est un homme, donc tout le monde est un homme, ça marche pas, zéro poubelle.
Non, pas poubelle. Ok, on entend. On peut dire que Jésus était un homme libre.
Oui.
Ouais, vraiment libre. Tel point que libre, il s'est un peu frité avec les autorités juives de Jérusalem.
Oui.
Parce que il remettait à jour la loi. Il est venu dire qu'il venait l'accomplir et tout ça. N'empêche que dans sa liberté, il a plein d'amis autour de lui, des hommes, des femmes. Et là, il choisit 12 pour sa garde rapprochée, 12 mecs. Pas 7 femmes et 5 mecs. Non, 12 mecs. Il choisit 12 hommes.
Pourquoi ?
Alors, on peut d'abord, dans une première lecture, dire « Ah ouais, mais ça nous rappelle les 12 tribus d'Israël. » Et donc, Jésus, en instituant ces 12, on peut dire « Ah bah, il crée un nouvel Israël, un nouveau peuple de Dieu. »
Intéressant.
Mais voilà. Mais il aurait pu...
Pourquoi il y avait des femmes qu'il aurait pu choisir ?
Mais je sais pas, moi, j'étais pas dans sa tête.
Et, non, mais en tout cas, il était au courant
de
l'histoire.
Autour de lui, il y a plein de femmes autour de lui.
Quel genre ?
Bah, il y a Marie-Madeleine, déjà.
Ouais.
Il y a Jeanne, là, il y a d'ailleurs à son exécution, il y a pas beaucoup de mecs. Hein. Il reste il y a que Saint Jean qui dit moi j'y étais là. Dans les autres textes, on a vu personne.
Tête dans le sac. Hein.
Ah oui, ouais. Ils étaient personne n'était là, sauf Saint Jean dit ah, si moi j'étais là.
Mais il y avait
que des femmes.
D'accord. Donc il a pris 12 hommes. Donc...
Il a pris 12 hommes, mais 12 qui se sont barrés à la fin. Mais okay. N'empêche qu'il a pris 12 hommes. Bon. Et puis dans sa garde rapprochée, c'est 3 de ces 12, donc Pierre, Jacques et Jean, donc c'est encore que des mecs. N'empêche qu'il y a un moment où il envoie ses amis aller parler de lui, il en envoie 72. Et on peut très bien penser que dans les 72 qu'il envoie, il n'y a pas forcément que 72 hommes.
Tu sais pas toi ?
Moi je ne sais pas, il dit 72.
Il dit pas qui y a dedans ?
Non, il dit pas qui y a dedans.
Tu sauras jamais qui y a dans les 72 ?
Ben, à la fin des temps, on me posera la question, on fera l'appel, qui était là dans les 72.
Ok.
N'empêche que, après sa mort et sa résurrection, il apparaît à tous, il disparaît. Et puis l'Église commence à se déployer. Donc ils vont annoncer Jésus ici et là dans les communautés. Et quand ils arrivent dans une ville, ils vont dans la synagogue, ils prient, et puis ils disent, ben nous on va vous parler de Jésus, il y a des gens qui y croient, et ils créent une communauté. Et à chaque fois, quand ils créent la communauté, le chef de la communauté, c'est un homme qui est choisi.
Est-ce qu'il y a des femmes chefs de communauté ?
Alors tu poses bien la question, parce qu'il y a un cas, je crois que c'est la communauté de Philippe ou Thessalonique, je ne sais plus, une des deux, il n'y a pas d'homme. Alors déjà, il n'y a pas de synagogue. Donc il va au bord de la rivière, parce qu'il sait que dans la tradition juive, on va prier au bord de la rivière. Et là, au bord de la rivière, il trouve des gens, il n'y a que des femmes, il leur parle de Jésus, elles y croient, et il choisit Lydia, qui devient chef de communauté. Donc c'est le rare cas d'une femme chef de communauté.
Parce qu'il n'a pas le choix, quoi.
C'est parce qu'il y a que des femmes.
D'accord.
Et voilà. Et après, de génération en génération, les chefs de communauté ont été toujours des hommes. Et ça fait 2000 ans que ça dure.
Très bien. Donc ça, c'est l'histoire. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne féminise pas ce métier ?
Bah donc il y a que Jésus a choisi les 12.
Non mais Jésus, très bien Jésus, mais aujourd'hui...
Mais nous notre référence c'est Jésus.
Non mais donc s'il a choisi ça, des hommes, dans tous les sens, on ne peut pas donner ce métier à une femme.
Aujourd'hui, et puis ça ne s'est pas fait pendant 2000 ans, ça ferait vraiment une rupture dans toute cette histoire. Et également, nos frères orthodoxes, ils sont encore à 100 000 lieues de ces questions-là. Et je pense que ça rajouterait encore des divisions dans l'Église.
Et tu me disais que la dernière fois, tu avais vu une fille de 15 ans...
Ah ouais, Marie, elle s'appelait. Marie comme la maman de Jésus.
En plus.
Ouais. Et là, au cours du dîner, elle réalise qu'elle ne pourrait pas être prête.
Elle est en larmes.
Elle était mais effondrée. Quoi. Effondrée. C'est-à-dire qu'on a flingué sa vocation. C'était impressionnant. Impressionnant.
Et du coup, elle va faire quoi si elle n'est pas prêtre ? Religieuse ?
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne l'ai pas revue depuis...
Il y a des cellules psychologiques pour les femmes qui aimeraient être prêtres et qui ne peuvent pas.
Je sais pas, mais...
Tu pourrais pas mettre une hotline en...
Non, mais pourquoi pas,
franchement.
Ouais.
Et leur dire que, c'est pas grave, Jésus ne souhaitait pas ouvrir ce métier à des femmes, quoi. Bah, quelque part, c'est ça que l'on
dit. C'est ça que ça veut dire, ouais.
Et toi, qu'est-ce qu'on en pense ?
Moi, c'est peut-être que même que Jésus n'y avait pas pensé.
Oh la vache, c'est encore pire, peut-être. L'ignorance et l'indifférence que je ne veux pas, quoi.
Voilà.
D'accord. Si jamais on voulait ouvrir ce métier à des femmes, il faudrait en parler au pape ?
Ah bah oui, et puis plus que le pape. Je pense que là, il faut...
C'est quoi plus que le pape ?
Non, mais c'est-à-dire que le pape, il essaye de ne pas décider tout seul.
Avec ses cardinaux.
Voilà.
On dit des cardinaux ?
Oui, c'est bien, un cardinal des cardinaux.
Okay.
Donc ce sont ses adjoints, là. C'est ses bras droits, il en a 120 à peu près.
En robe rouge, là ?
Rouge.
Et il décide avec d'autres aussi ?
Ah bah oui, mais alors là, ça, je pense que ça serait un concile, c'est-à-dire qu'il rassemble tous les représentants de tous les évêques du monde.
Combien de personnes ?
Aujourd'hui, c'est 4000.
Et il les réunirait où ? En visio ?
Peut-être, oui.
Oui, parce
non,
que...
non, mais c'est tellement grave qu'on ne peut pas prendre une décision comme ça, même sans associer les orthodoxes. C'est-à-dire que ce sera...
tellement grave.
C'est pas rien. Faut pas. La tradition, c'est pas. Il y a un vrai enseignement dans la tradition. Aujourd'hui, c'est vrai que on vit dans un monde où tout s'accélère. La question de la place des femmes, la question et puis tout d'autres sujets de société. Et peut-être que dans son enseignement, l'Église s'est basée sur ce que les sciences sociales disaient à l'époque, et qu'aujourd'hui ça évolue. Il faut laisser le temps à ce paquebot, à cette vieille dame, ou cette dame éternellement jeune, d'entendre les enjeux et de se dire, est-ce qu'on n'est pas là dans une mode, ou est-ce que là on a quelque chose de fondamental?
Je pense quand même qu'on a quelque chose de fondamental. La preuve, cette fille est en larmes, effondrée parce qu'elle veut être prêtre. Enfin, c'est pas tellement.
Oui, mais parce qu'on lui a pas dit avant.
Mais quoi, on
peut-être qu'on a j'ai raté le catéchisme. Je l'ai eu pendant 6 ans au catéchisme. J'aurais dû lui dire dès le départ, avant qu'elle ait eu l'idée de vouloir devenir prêtre.
Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir. Tu te rends compte que parce qu'on est une femme, on peut pas faire tout ce qu'on veut?
Parce que je suis un homme, je peux pas être papa.
Hein?
J'aimerais être papa, au sens de porter un enfant dans mon ventre.
Ah oui, tout à fait, oui. C'est pas la même chose.
C'est on verra, la technique
là,
peut-être nous.
Ouais, non, mais là, c'est physiquement que tu ne peux pas.
Oui.
Là, on mélange un peu des.
Oui.
Bon, très bien. Passons
au sujet. On voit bien que le sujet, il est touchy.
Il n'y a pas des militants pour féminiser ce métier.
Ah, ben si.
Il y en a.
Oui.
Mais t'en fais pas partie, j'ai l'impression. Toi, t'as pas trop envie. Hein.
Je suis pas mûr. Mais je vois que. En fait, il faudrait qu'on puisse travailler cette question de la tradition. On ne peut pas balayer comme ça 2000 ans d'histoire. C'est structurant. Donc, alors peut-être que tout va s'écrouler derrière, quoi. Et est-ce qu'on a peur que ça s'écroule, ou alors c'est un écroulement pour une résurrection?
Parce qu'on pense qu'une femme ne ferait pas assez bien le travail qu'un homme.
Elle ferait très bien. On a des femmes déjà qui sont très présentes et très engagées à tous les niveaux dans l'Église, et de plus en plus avec François.
Et alors pourquoi on ne leur donne pas cette autorité-là? Pourquoi on ne veut pas donner cette autorité-là?
Il s'agit plutôt d'un. On appellerait ça, nous, un ministère. Et il y a des femmes qui ont un exercice d'autorité dans l'Église. Ça se voit. Le pape a nommé une femme responsable de l'organisation de tous les rassemblements de tous les évêques. Mais là, c'est le ministère spécial, on va dire, des sacrements.
Parce que responsable de l'organisation des évêques, j'ai l'impression qu'elle est dans un bureau avec un ordinateur.
Elle passe son temps à. Bref.
Ok, très bien. Je sens que. Bon, voilà.
Bon.
Je te reçois alors que d'habitude, toutes les semaines, je reçois un CEO. Puis un
quoi
CEO. CEO, Chief Executive Officer, DG, directeur général, président d'une grosse boîte.
Voilà. Ah ouais,
ouais. Ou une célébrité.
Je suis ni l'un ni l'autre, ou je suis les deux?
Alors, finalement, Jésus est une star, donc tu es une star. Mais tu es CEO, parce que sous ses airs, le prêtre gère une entreprise.
Alors, pas tous, mais moi, il s'avère que ma mission est d'être curé.
C'est quoi la différence entre curé et prêtre?
Curé, c'est une fonction, c'est une mission. Prêtre, c'est un état.
D'accord. Le prêtre, en fait, c'est quoi le prêtre? C'est quoi concrètement du coup son métier? C'est juste une, c'est même pas
c'est,
un métier.
C'est un homme qui a reçu de l'évêque l'ordination, et ça fait de lui un homme qui peut célébrer les sacrements, présider la messe, donner le pardon de Dieu dans la confession, et puis bon voilà, et c'est la mise ordinaire pour les baptêmes.
Et on t'a donné une sorte de certificat?
Ben oui, j'ai ma petite carte.
Mais non.
Si, j'ai une carte de
célébrette. Carte de prêtre.
Ouais, ça s'appelle célébrette.
Mais non.
Mais si.
Et c'est une carte, mais que si jamais tu la perds, tu as le droit de la faire renouveler?
Bah oui, c'est comme la carte d'identité.
C'est ta carte d'identité, quoi. Et cette carte, elle t'est remise, donc il y a combien de temps? 16 ans? 20 ans? Il y a une date dessus de péremption?
Mais non, parce que maintenant, tout est en QR code et tout ça.
Mais non.
T'as ton téléphone?
Oui.
Tiens.
Mais disons, on n'est pas très rangé pour un prêtre, ce petit calepin, là. J'ai le droit de.
Au verso, c'est le sigle de l'Église de France. Et au recto, il y a ma trombine. Il y a marqué quoi? Vas-y, lis, Église catholique.
Diocèse de Nanterre, Hugues Morel d'Arleux, né le 21 avril, ordonné prêtre le 19 juin 2004, il y a 20 ans, dans le diocèse de Nanterre. ID Nanin, URL Internet de contrôle. Cette carte donne accès au célébré. Qu'est-ce donc?
Ça veut dire que j'ai le pouvoir de célébrer ou pas. C'est pas parce que je suis prêtre que j'ai le droit de célébrer la messe.
Ah, tout le monde n'a pas le droit?
Non, parce qu'il y a des prêtres qui ont soit fait les conneries et que ceux-là ont...
T'as pas la même tête sur ta carte que maintenant, c'était il y a 20 ans, oui. D'accord, c'est rigolo. Et ça donne accès à quoi?
Regarde.
Je regarde, mais attends, c'est long.
Ça donne accès à toutes mes missions, et après t'as une couleur verte, orange ou rouge.
D'accord.
Vert, ça veut dire que je peux aller partout.
Ça veut dire que t'es vert.
Vert, ça veut dire que je peux aller partout et j'ai aucune restriction. Je suis pas empêché.
Parce qu'il y en a qui sont empêchés.
Il y en a qui sont empêchés. Par exemple, un gars qui vient tout juste d'être ordonné prêtre,
ouais.
Ça peut arriver que l'évêque lui dise « Non, non, toi t'es trop jeune, tu vas pas confesser. » Et donc il va être orange. Parce qu'il faut d'abord que tu apprennes ton métier de prêtre avant d'écouter les gens dans la confession.
Donc toi, t'as les pleins pouvoirs.
J'ai les pleins pouvoirs, oui.
Il n'y a pas rien au-dessus de toi.
Oui.
Ok, donc avant que je te coupe sur cette digression, tu disais que toi, ta mission était d'être curé.
Oui.
Et donc, tout le monde n'a pas accès, mais toi, comme t'es curé, t'as les clés de ton église.
Oui.
Et tu recrutes.
Et je, ben, si j'ai pas la compétence en bénévole, je recrute.
Tu as une fiche de paye.
Alors nous, on a un traitement.
Tu payes des impôts?
Bah, je paye des impôts lorsque mes revenus sont imposables.
Et ils sont imposables, tes revenus?
De ce que me donne l'église, non, parce que je trouve que je fais 1100 euros par mois.
Net sur ton compte en banque?
Oui. Et en plus, bon, alors j'ai des avantages en nature parce que je suis quand même logé.
D'accord.
Donc,
blanchi?
Oui, on a une machine à laver le linge. Et puis, on a quelqu'un qui fait leur passage. Ah ouais, non, c'est un vrai service.
D'accord. C'est pas si vous voulez devenir riche, devenez prêtre, quoi. C'est pas vraiment la vocation de certains.
En fait, t'as aussi une garantie d'emploi jusqu'à... Si tu déconnes pas, t'as une garantie d'emploi jusqu'à la fin de tes jours. Retraite à 75 ans pour nous.
La vache.
Ouais.
Et à 80, tu fais quoi?
À 80, tu restes prêtre, mais tu peux plus être curé. Tu peux plus être chef.
Mais tu restes payé?
Ah bah, t'es payé jusqu'à ta mort.
Et tu fais rien de...
Bah, tu fais ce que tu veux.
D'accord. Et alors, je pose toutes ces questions un peu basiques, hein, je sais, mais... Moi, elle m'intéresse déjà et je pense que ça peut intéresser des gens. Mmh. Et surtout, on est allé dans la rue et on est allé demander aux gens si jamais ils avaient un prêtre en face d'eux, quelles questions ils aimeraient lui poser.
Ah, ça m'amuse.
Qu'est-ce qui est toujours bon dans la religion aujourd'hui? Pourquoi vous avez fait ce métier?
Croyez-vous en Dieu?
Pourquoi le pape s'occupe-t-il de la politique aujourd'hui?
Est-ce qu'il pense qu'il peut rester célibataire toute la vie?
Pourquoi une religion où les prêtres n'ont pas le droit de se marier?
Est-ce qu'il regrette parfois d'être devenu prêtre?
Est-ce qu'on va tous aller au paradis?
Et la question que je pose aux prêtres, c'est qu'est-ce qui est le plus important?
C'est d'aimer. Le plus important, c'est d'aimer. Aime et fais ce que tu veux. C'est génial, hein?
Développe.
C'est génial. Alors, le problème, c'est qu'en français, le verbe aimer, il couvre un champ sémantique qui est immense. Mm. Si je te dis je t'aime, Pénélope, tu dis, oula, qu'est-ce qu'il me raconte? Mm. Voilà. Comme moi, quand je dis aimer, c'est souhaiter que l'autre se réalise. Je souhaite que tu te réalises. Et si je peux faire quelque chose pour ça, ben, je vais essayer de faire de mon mieux. Attends, mais ça nourrit une vie, quoi. C'est pas mal, hein?
Non, c'est
la première question.
Première question.
Qui était la dernière?
Tout à fait, on fait tout à l'envers ici.
Vas-y.
Qu'est-ce qui est toujours bon dans la religion aujourd'hui?
Qu'est-ce qui est toujours bon? C'est vrai que. Mm. Hein, on a quand même quelques bonnes casseroles, là.
On a quelques bonnes casseroles.
Qu'est-ce qui est toujours bon?
Dans la religion.
Dans la religion, c'est que malgré tout ce qui a pu arriver, on peut toujours aimer.
C'est pas vraiment ça qui est bon, c'est pas que on peut toujours aimer. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a de bon dans la religion?
D'accord. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas le monopole de l'amour.
Oui.
Et bien que malgré tout ça, on puisse inviter les autres à rester fidèles à l'amour. Essayons encore d'aimer. Donnons sa chance à l'amour.
Pourquoi vous avez fait ce métier?
Attends, mais parce que Jésus, il est tellement dingue, tellement extraordinaire, tellement... moi, je me suis envoûté par ce gars-là, au sens qu'il me rend libre, qu'il a des paroles cohérentes, qu'il donne un élan de vie, que moi, j'ai envie de consacrer ma vie à ça. Je trouve ça tellement beau, tellement vrai, tellement ajusté, que ça vaut le coup, quoi. Il y en a qui deviennent journalistes, il y en a qui deviennent... moi, j'ai trouvé un truc qui me saisit tout entier.
Est-ce qu'il pense qu'il peut rester célibataire toute la vie?
Oui.
Et ça te dérange pas?
Ah, j'en suis heureux même.
T'es heureux d'être célibataire? Ah bah, parce que si t'es pas célibataire, tu pourrais pas être là.
Ah bah oui, non. Mais en tout cas, l'église propose pas ça. Les gars qui ont dit, mais je voudrais continuer et j'ai ma petite qui est sympa, ben on lui dit, bah tu vas t'occuper de ta petite qui est sympa.
Et tu comprends ça?
Mais je comprends, oui, je comprends.
T'es ok avec ça?
Oui, oui, je suis ok avec ça.
Et alors, les prêtres ont le droit d'avoir des pensées sexuelles, mais pas de pratiquer?
Vas-y, continue.
Est-ce qu'il t'arrive... C'est quand même un peu choquant de poser cette question.
Pose ta question.
Est-ce qu'il t'arrive de te masturber? Est-ce que les prêtres ont le droit d'avoir des pensées sexuelles?
Quand t'as une pensée sexuelle, après c'est qu'est-ce que t'en fais, cette pensée?
Oui, tu vas pas la chasser.
Eh ben, voilà. Est-ce que t'entretiens un imaginaire érotique?
T'as le droit?
Ben, est-ce que c'est bien?
Ah. Mais est-ce que t'as le droit?
Ben, ça fait partie de jusqu'où tu vas.
Ça me gêne de te parler de ça, Hugues.
Eh ben, si tu veux, on coupe ça.
Non, mais non, parce que c'est important.
Donc oui, on a heureusement, moi, tu vois, quand je vois une jolie fille, je vois une jolie fille. Après, qu'est-ce que j'en fais?
Mais est-ce que t'as le droit? Est-ce que t'as l'impression d'être coupable quand ça t'arrive?
Non. Non. Ah, de quoi? D'admirer une jolie fille? Après, moi, je veille à pas entretenir de pensées érotiques.
Voilà, d'accord. Ouais. Donc t'essayes de bloquer ton truc, quoi.
Oui. En fait... J'essaie de faire ça parce que je me dis, attends, là tu fais quoi? Tu la prends pour un objet, tu vois, un objet d'un désir sexuel, ou tu veux vraiment l'accueillir comme une personne, quoi. Voilà, c'est un peu ça que je me dis.
Mais tu te dis pas, ça va remplacer Dieu?
Non, c'est plus dans le respect pour elle, pour la personne.
D'accord.
Est-ce qu'il regrette parfois d'être devenu prêtre?
En fait, je regrette pas d'être devenu prêtre. Non.
Il y avait un mec qui allait sortir.
Ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi. Parce que je vous dis pas que je me marre tous les jours. Parce que mon taf fait qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions qui sont compliquées. Mais fondamentalement, je suis vraiment content. Je suis là à ma place, quoi. Je pense que je suis fait pour ça.
Donc tu te dis pas, peut-être que j'aurais fait autre chose, je serais ailleurs. Tu penses même pas à ça.
Parfois, on a l'impression que l'herbe est plus verte à côté, quoi.
Bien sûr, partout.
Voilà. Oui. Donc j'ai aussi cette tentation-là.
Oui, d'accord.
Voilà.
Mais pas plus fondamentalement, quoi.
Voilà, et je me dis, bah, tiens, cette femme, elle est quand même super. Si je l'avais épousée.
Ah, c'est vrai?
Bah oui.
Est-ce qu'on va tous aller au paradis?
On ira.
Ouais, c'est beau.
Est-ce que moi j'irai au paradis déjà?
Bah j'espère.
Ah bon, t'es pas sûr?
Bah j'espère. De toute façon, c'est pas moi qui décide, hein. C'est le Seigneur.
Oui, d'accord, mais en fonction de quoi? Bah, moi, si j'étais sage, c'est ça le truc?
Bah je sais pas, est-ce que t'as aimé?
De quoi?
On va être jugé là-dessus. Est-ce que t'as aimé?
Mais c'est que ça le bordel.
Le jugement.
Mais moi, j'aime pas assez. Putain.
Mais bien sûr qu'on aime pas assez. Tous, on aime pas assez.
D'accord. En fait, c'est juste ça. Si j'ai assez aimé, je verrai au paradis. C'est ça que t'es en train de dire.
Bon, en même temps, il y aura peut-être un moment de toilettage.
De toilettage.
Oui, et tout ce qui est un peu les aspérités qu'il y a dans ta vie, qui ont été un peu moches de toi. On va essayer de voir. Est-ce que ça, c'est Pénélope? Si on coupe, ça reste toujours Pénélope? Oui, bon, on va couper.
Il se passe quoi au paradis?
Bon, l'image que je préfère, elle est dans le livre d'Isaïe. Le Seigneur dressera sur sa montagne un banquet. De viande grasse et de vin capiteux, de mets séculents et de vin décanté.
Et si on est vegan?
Bah, tu bois du vin.
C'est tout.
Bah, c'est pas mal.
Oui, c'est comme du raisin.
Ouais, ouais. Et imagine la vie éternelle comme un banquet. C'est souvent présenté comme ça aussi. La vie éternelle, c'est un repas avec des gens sympas.
Que t'as pas choisi.
Et des gens que t'aimes, des gens qui dont la présence te plaît. Donc c'est comme dans les repas où le mets est excellent. Et le convive est super. Et donc le mets devient encore meilleur. Et c'est un repas qui n'en finit pas. C'est-à-dire que t'es jamais
rassasié.
T'es plein de bide et tout ça. Non.
Donc tu bouffes, tu bois, tu te marres.
Voilà. Et tu dis du bien des absents.
Ah,
c'est ça le paradis.
Ah, c'est ça. Mais sauf que le con, on dit quoi de lui? On n'en parle pas.
Ah ben, on se désole pour lui, on prie pour lui, on dit, maman, là, il est dans la salle d'attente et on attend qu'il arrive.
Ouais.
Et on sait que dans la salle d'attente, lui aussi, il est en train de se pouponner, se, machin, se faire les ongles.
Mais il galère, il médite en lui.
Oui, ouais. Bah, il prend le temps de se préparer.
Ouais.
C'est le mot purgatoire, on peut l'entendre comme purification, mais non, c'est plutôt comme une préparation.
Et ce banquet, il dure du coup
éternité. Je trouve que c'est une des plus belles images. Et puis, il y a bien sûr celui qui nous sert, qui est en même temps à côté de nous, c'est Jésus. Quoi.
Ah, d'accord. Ah, oui. Il est là.
Il est là et c'est lui qui fait le service. Et c'est lui qui est là. On est tous assis à sa droite et il veille sur chacun.
Mais à sa droite et les gens à sa gauche.
Mais il y a tous à ta droite. C'est une image de dire que tu as la meilleure place. On a tous la place qui nous convient.
Donc là, à ta
personne n'est jaloux de la place de l'autre. T'es super content que Marie, sa maman, elle ait une place un peu première. Tu vas pas lui piquer sa place. Tu vois.
Bien sûr.
Que ceux qui ont trimé davantage, qu'ils soient un peu plus à l'honneur, t'es content pour eux. Voilà. Et chacun a sa place. Et ça, t'imagines, c'est génial. On dit
c'est
que du
génial.
Bien.
On peut fumer des clopes?
Pourquoi pas?
Oui.
Je sais pas. De l'encens plutôt.
On peut fumer de l'encens?
Non, ça c'est pas.
J'ai entendu dire dans mon oreillette qu'il y avait un manque de prêtres en France.
Bah oui.
Et que du coup, on appelait les prêtres au Portugal et en Espagne pour qu'ils viennent en France.
Bah, ils ont la même crise que nous, donc on les appelle plus, ceux-là.
Ah, c'est fini, on n'appelle plus personne. Fou. Et pourquoi est-ce qu'il y a moins de prêtres en France?
Parce qu'il y a moins de chrétiens, il y a moins de baptisés.
Pourquoi? Pourquoi t'as moins de baptisés?
Parce qu'on n'arrive pas à transmettre ce qui nous fait vieux.
Pourquoi?
Alors, peut-être que parce que, étant donné que l'Église n'est plus reconnue comme une institution sociale qui s'impose à tous, quand dans un village, la messe le dimanche, si tu vas pas, tout le monde te montre du doigt, tu vas à la messe le dimanche. Et on se dit que dans ce lot-là, il y en a peut-être qui y croient. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire. Donc, après, dans des cadres familiaux ou dans des milieux sociaux, il y avait comme une présence sociale où. Le dimanche, tu discutes pas, tu vas à la messe, c'est tout. C'est
donc en fait, le fait qu'on puisse réfléchir à si on a envie d'être chrétien ou pas, et ben fait que on se dit qu'on n'a pas envie de l'être. Bon, dès qu'on a le choix.
Peut-être. Alors ça, une autre raison, c'est que peut-être qu'on a l'esprit qui est occupé par tellement d'autres choses qu'on en oublie qu'il y a quelque chose au-dessus.
Comment il s'appelle ton col?
Alors on appelle ça celui-là, on appelle ça le clergyman. C'est la mouture anglaise. Sinon, le col romain, c'est un truc qui fait tout le tour.
Et t'as des boutiques spécialisées? Ou c'est un papier que tu mets à l'intérieur?
Non, c'est un...
Oh,
c'est un machin. Donc, c'est une chemise...
C'est en fait une
normale.
Chemise Clergyman.
C'est une chemise avec la couture spéciale, ouais. Comme un col de truc.
Et le papier, c'est toi qui l'as fait?
Non, ça c'est vendu avec, c'est en plastique. C'est plus simple, comme ça, un coup d'éponge. Hop. À l'origine, ça devait être en carton à mi-donner. Bonjour.
Non, je peux toucher,
Je peux toucher le produit chez chaque client.
Mais t'en as combien?
Mais à chaque fois que t'achètes une chemise, il le livre avec.
Et si jamais tu le perds?
Et ben, j'en ai d'autres, j'en ai autant que de chemises. Donc les chemises qui sont mortes, les cols, ils restent. Donc,
pourquoi blanc?
Bah.
Mon père, c'est le reste. N'avait pas la réponse.
Je pense que c'est le reste de l'habit ecclésiastique. Il y avait l'habit du facteur, l'habit du voilà, et il avait l'habit du prêtre, et il avait ce. Je connais pas exactement l'origine.
Et alors, question.
Sur Wikipédia ou sur une autre moteur de recherche, vous devriez trouver.
Sur Bing.
Sur Quant.
Question. Pourquoi est-ce que vous mettez ce bout de plastique blanc? Comment on l'appelle ce bout de
plastique?
Tu
me vois là?
Non. Je t'intègre.
Dans l'ensemble des prêtres.
Tout à fait.
Et il y a des prêtres qui le portent pas.
Alors justement, pourquoi là t'es venu avec, puisque t'es pas en confession
Oui, je le porte au quotidien.
Pour quelle raison? T'as besoin d'afficher que tu l'es? T'as ce besoin de
en
le
fait,
dire
En fait, on va dire par coquetterie. Que je suis à l'aise, je suis bien, je me sens bien dans mes fringues.
Et t'as aussi envie, c'est quand même, c'est pas ostentatoire, mais on peut t'identifier comme ouais. étant un prêtre.
Ouais, c'est-à-dire que dans la rue, je m'expose à ce que quelqu'un me fasse un sourire. Mais ça m'est déjà arrivé, dans le train, une fois, je suis là, et puis il y a une fille qui me regarde, et elle me dit, vous êtes prête? Oui, je peux me confesser?
Mais non, t'as dit oui?
Ben, j'ai dit, bah, peut-être pas dans le train, si vous voulez, moi je descends à la station d'après, elle m'a dit, bah, très bien, et on s'est mis dans un coin, et elle m'a raconté sa life, et je lui ai donné le pardon de Dieu.
Mais ça n'avait pas eu le temps, t'aurais quand même
pris le temps. C'est vrai que c'est un peu embêtant, parce que là, les gens, donc j'essaie de prendre le temps, et si j'ai pas le temps, je dis, quand est-ce qu'on peut se voir? Ou alors, vous allez à l'église là, et je prends rendez-vous.
En fait, oui, t'es au service des autres, quoi.
Ouais, c'est super. Mais moi, ça me fait vivre. J'ai une chance folle.
Et du coup, t'as des copains qui sont pas prêtres?
Je suis le seul prêtre de mes potes d'enfance. Et puis, même encore aujourd'hui, je me fais des amis qui sont pas prêtres.
Et ils t'appellent pour te raconter leurs histoires?
Ouais, oui, certains, des confidences. En général, ils m'appellent pour célébrer leur mariage, baptiser leurs enfants, pour m'associer à leur joie et leur fête.
Non, mais en mode, j'arrive pas, nanan, j'ai une question que je me pose, est-ce que tu peux
c'est
m'orienter?
Oui, mais c'est pas.
Tu te dis pas, ils abusent.
Je pense que pas plus que les autres potes de la bande que nous étions. Ou... Ouais, non.
D'accord. Ouais. Et le week-end, tu fais quoi?
Je travaille que le dimanche, moi. Les autres jours, je fais rien.
Et donc, justement, tu fais quoi du lundi au samedi?
Le lundi, c'est off. Je me repose du week-end.
Comme les intermittents.
Voilà. Donc, je dors. Bah, quand j'ai des problèmes de dos, quand j'ai un peu une crise et que ça me prend mal au dos, je vais voir un ostéopathe.
Tu bois
De l'alcool?
Ouais.
Ça m'arrive, oui. Bah, tu sais qu'on a dit de Jésus qu'il était un ivrogne et un glouton.
Ah, donc tu te gaves et tu te torches?
Pas tous les 4 matins, quoi.
Non, ça t'arrive. Ça t'arrive d'être complètement sous?
Ça a pu m'arriver, oui. Sous, faut quand même y aller, quand même.
Ouais, non, pas jusqu'à te retrouver dans le caniveau, quoi.
Non, pas dans le caniveau.
Mais sans le
trottoir. Il n'y en avait pas.
Donc finalement, tout ça pour dire, toutes ces questions un peu cons, et pour dire que tu es un homme comme les autres.
Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Bah oui.
C'est quoi la pire chose qu'on t'ait confessée?
Bah je peux pas le dire.
Non, mais genre, un meurtre?
Je peux pas le dire.
Tu peux même pas dire, c'est déjà quelqu'un qui t'a confessé un meurtre?
Ben non, parce que si je te dis non, si je te dis oui, non. En fait, il y a des questions comme ça auxquelles je peux pas répondre.
Mais tu peux pas dire oui, on m'a déjà confessé un meurtre, point.
Non.
D'accord. Donc si.
Non, je préfère pas répondre à cette question-là.
D'accord.
Parce qu'en fait, je suis tenu au secret absolu.
Ok. On t'a déjà révélé en confession un meurtre, un viol, un crime. Est-ce que t'es tenu au secret même auprès de la police?
Oui.
Tu n'as pas le droit de dire.
Je suis tenu au secret absolu. Si je le révèle, non seulement je suis plus prêtre, mais je suis excommunié.
Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Si je veux redevenir prêtre, il faut que j'aille demander au pape.
Et comment tu fais pour prendre rendez-vous avec le pape?
C'est un peu compliqué.
Donc personne ne le fait?
Ben si, le pape, il a heureusement délégué à quelques-uns. Mais en fait, c'est pour dire vraiment l'importance de la confidence qui est transmise, de dire à la personne que quand tu le dis dans ce cadre-là, ta parole, elle est secrète absolue. Parce que si le pénitent qui vient voir le prêtre en lui disant j'ai commis ça, il sait que le prêtre ensuite il va pouvoir parler,
oui,
et donc il ne le dira pas.
Et l'excommunication, c'est dans quel cas?
Ben, c'est quand tu as commis quelque chose qui est tellement grave.
Mais de quel niveau ?
Mettre une baffe au pape.
Ah ouais ?
Oui, si tu mets une baffe.
Il y en a déjà un qui s'est fait excommunier pour ça ?
Je sais pas, mais...
Mettre une baffe au pape, ok. Révéler un secret en confession.
Confesser son complice. Par exemple, si par exemple d'aventure, nous avions une aventure ensemble,
ouais.
Et que toi, tu étais pleine de remords, et tu viens de le confesser à moi, en disant, mon père, j'ai eu une aventure éprinte, et que je te donne le pardon, t'es vraiment pardonné, mais moi, je suis excommunié. Parce que j'ai pas le droit de confesser le complice.
Bah, en même temps, oui, ça n'a pas de sens de le confesser à toi.
Là, dans les histoires d'abus sexuels dans l'église, ouais. La personne qui était victime, on l'a présentée comme une complice. Voilà, il y a eu des histoires comme
Attends, elle s'est confessée à celui qui...
À celui qui l'avait...
Pourquoi
bah, comme il était prêtre, elle pensait recevoir le pardon de Dieu. Mais qu'en fait, lui, il s'est excommunié.
Mais lui, il n'a pas pu dire « me dites pas, me dites pas ».
Parce qu'elle il savait parfaitement, puisqu'il avait...
Oui, mais pourquoi il a dit « me dites pas, je vais être excommunié ».
Mais non, mais le gars, il est tellement tordu, tellement pervers que...
Il préfère être excommunié. Oui, enfin, ça lui arrive des problèmes. C'est quoi l'autre Qu'est-ce qui se passe, lui
si ah ben, lui, si on finit par l'attraper, il...
Prison.
Mais déjà, pour l'église, ben, il est plus prêtre, quoi.
Oui, mais de la même façon que s'il est complice.
Oui. Enfin, j'ai pas compris ta question.
Bah, une nana a une aventure avec un prêtre.
Ouais.
Au lieu d'aller se confesser auprès de lui, elle va se confesser à un de ses confrères.
Très bien.
Bah, du coup, le connard... Qui lui a fait des trucs. Ouais. Il n'est pas excommunié parce qu'elle n'est pas complice.
Mais lui, il a quand même. Attends. Il y a quand même à voir. Si jamais elle se met à parler et que l'autre, le prêtre lui dit : Mais attendez, madame, vous me le dites en confession, mais je pense qu'il faut aller. Il faut aller le dire en dehors de la confession.
Oui, mais je ne veux pas.
Je ne veux pas, sauf que celui-là, il va recommencer avec quelqu'un d'autre.
Oui, mais je ne veux pas.
Vous voulez qu'il y ait combien de victimes avant que.
Je n'y arrive pas. Bah, voilà. Lui ne peut rien dire.
Il peut rien dire.
Donc il ira pas en taule, le connard.
Mais malheureusement, ces gars-là, ils recommencent.
Et donc un jour ils y vont.
Ouais.
Ok, donc excommunion, hyper intéressant ça. Donc le prêtre qui révèle un secret de confession, la baffe au pape et la complice, quoi d'autre ?
Ouais, un gars qui est théologien bardé de diplôme et qui vient remettre en cause les fondamentaux de la foi. On va le considérer comme un hérétique.
D'accord.
Voilà, et donc
okay.
C'est ni toi ni moi, donc
okay.
J'en crains rien.
Ouais. Parce que le reste, on peut craindre, d'accord.
Voilà, je sais plus, là, il faut que je reprenne mes notes.
Ok, mais c'est
je
ça.
Je pense qu'en allant sur les petites boîtes de recherche, on pourrait trouver toute la liste des idées pour être excommunié.
Mais tu sais, je pense que toutes les réponses à cette question, on peut les trouver sur Wikipédia. On peut aussi se dire qu'on met Wikipédia
ben non,
comme tu as dit
péter. On n'aura pas la voix souriante de Pénélope. Ça
Hugues Morel d'Arleux.
Présent.
As-tu peur de la mort ?
Aujourd'hui, non.
Hier, oui.
Non, j'ai eu peur ouais, dans les accidents.
T'accueilles la mort.
Je me suis pas posé la question.
Est-ce qu'il y a des hosties qui ont des goûts ?
Alors, l'hostie, c'est la farine avec du sel et de l'eau. Et puis, ça fait de la pâte et puis c'est cuit.
Donc, si on met de la poudre de noisette, par exemple ?
Bah non, on n'utilise pas ce type d'hostie. Il faut que ça soit du pain sec, sans levure.
Voilà. Net, quoi.
Net, voilà.
Chiant.
Oh bah, ça a le goût du pain, c'est pas. Il y en a des gens qui aiment bien. Hein.
Oui, on ne fait pas non plus une baguette d'hostie, quoi. Comme il n'y a pas eu un business d'hostie au wasabi, d'hostie au CBD, tout ça.
Non. Je comprends même pas ce que c'est.
D'accord. Hugues, on va s'arrêter avec.
Déjà ?
On va terminer cet épisode avec. Tu préfères le deuxième de cet épisode et le dernier. Tu préfères que cet épisode ne sorte jamais. Alors qu'il est quand même assez super. Ou qu'il sorte, mais que personne, nobody, ne l'écoute jamais.
Alors on le sort, puis on verra bien. Si personne, c'est quelqu'un. Puisque Ulysse nous a dit qu'il était personne. Donc on sera, il y a au moins une personne pour l'écouter.
It's a wrap.
C'est fini, là. Pas plus d'heure, tonneau.
Ça pourrait être une contre-prêterie.
Génial.
Putain, il insigne des conneries, le pape. Hein.
Non, c'est super sympa, c'est un beau cadeau. Ouais. Pénélope.
Je me passe sur le mec le plus ouvert du monde, hein, Jésus.
C'est un tatouage, ça ?
Et la carte de prêtre, c'est la carte de prêtre.
À bientôt, Hugues. Allez, ciao.
Et voilà, vous aussi, vous avez appris des trucs ? On peut quand même dire que il est moderne pour un peu ce qu'il arrange, Jésus. Hein ? C'est assez insupportable à entendre, je l'admets, mais c'est trop important pour ne pas le mentionner. Donc si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à On tisse la toile sur votre plateforme d'écoute en cliquant sur suivre ou s'abonner en haut à droite, je crois que c'est à droite. Mettez des étoiles, idéalement 5 évidemment, et mettez un commentaire aussi, même un pseudo, on s'en fout, c'est juste histoire d'offrir de la visibilité à ce podcast qu'on espère génial et surtout massivement écouté.
Richard, est-ce que tu peux closer le studio, s'il te plaît?
Ok.
Bye, à toutes.